Très bon réveil à tous. Voici justement le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un nouvel exercice d'équilibriste entre priorités sanitaires et impératifs économiques. L'Élysée tient ce matin un conseil de défense avant une conférence de presse ce soir de Jean Castex sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Que va-t-il annoncer? En tout cas, pas la réouverture immédiate des commerces non essentiels. Ils sont pourtant nombreux à risquer de mettre la clé sous la porte. Témoignage dans un instant et focus sur la stratégie du gouvernement.
Et puis coup de théâtre dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007.
Ziad Takieddine, qui se présentait comme l'un des intermédiaires avec le régime Kadhafi, a retiré ses accusations. La vérité éclate enfin, écrit Nicolas Sarkozy sur les réseaux sociaux, alors qu'il est mis en examen pour association de malfaiteurs, corruption passive et financement illégal de campagne électorale.
Le Mozambique doit enquêter sur des massacres de villageois dans le nord du pays.
C'est ce que demandent les Nations Unies après une série d'attentats islamistes qui ont fait 50 morts par décapitation, des enlèvements de femmes et d'enfants également.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, taille des individus, comment expliquer les différences entre pays? Je poserai la question à Barbara Eudes, elle est chargée de recherche à l'INSERM.
Leurs boutiques ont dû fermer avec le reconfinement. Les petits commerçants ne voient pas le bout du tunnel aujourd'hui. Ils commencent à dénoncer un deux poids deux mesures avec les grandes surfaces. Ils continuent d'ailleurs à le dénoncer. Les minces espoirs qu'ils avaient de rouvrir leurs portes avant la prise de parole du Premier ministre à 18h ce soir ont été douchés hier par Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement. Le statu quo pourrait être de rigueur vu la situation sanitaire, mais un rideau fermé pourrait bien signifier la fin de toute une vie de travail, explique Rosanetto, qui dirige un magasin de chaussures à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine.
Moi, j'ai fait le prêt de l'État. J'ai eu 60 000 euros. J'ai eu cette chance parce que la plupart des gens ne l'ont pas eu. Et cela, c'est catastrophe. Mais c'est bien beau, mais c'est encore un crédit. Qu'est-ce que je vais faire encore avec un crédit? J'ai déjà le crédit du magasin. J'ai le loyer, j'ai toutes les charges. Et dites-moi, qu'est-ce que je vais faire encore avec un crédit? J'ai 57 ans. Je vais me prendre encore un crédit. Et puis après, ils vont reconfiner. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Non, j'ai pas les reins assez solides, non. Non. Et je pense que plus d'un commerçant n'a plus les reins assez solides, parce que là, c'est trop. Le magasin est mort. Et moi, je suis complètement en dépression, parce que je vois qu'il y a rien qui rentre. Moi, qui me tue au boulot tous les jours, je suis là du matin au soir. Et là, on nous ferme le magasin, et je me demande ce que je vais faire, puisque c'est ma passion, c'est ma vie, ce magasin. Moi, je voudrais juste demander au gouvernement comment il compte nous aider concrètement, et pas avec des miettes pour qu'on s'en sorte.
Rosanetto à la tête d'un magasin de chaussures dans les Hauts-de-Seine au micro d'Anne-Laure Jumet qui signe le reportage de la rédaction à 7h25 ce matin sur France Culture, consacré aux commerçants à qui le gouvernement conseille de passer à la commande en ligne, suivi du retrait en magasin pour limiter la casse liée au confinement. Mais vous l'entendrez, les TPE partent souvent de zéro quand on parle de numérique. L'opposition et certains membres de la majorité au sein du groupe Agir notamment pressent l'exécutif d'en faire plus pour ces petits commerces. Mais priorité économique ou sanitaire, l'arbitrage et délicat, Antoine Marette.
Sacrifier novembre pour sauver Noël, c'est grosso modo l'idée de Jean Castex. Certes, l'épidémie montre des signes de frémissement après 2 semaines de couvre-feu, puis bientôt 2 semaines de confinement, mais la situation reste précaire et le pic d'hospitalisation est à venir. Pas question donc de relâcher la pression. Les commerces non essentiels devraient rester fermés et le gouvernement pourrait même prendre la décision de renvoyer les lycéens chez eux. Alors comment gérer l'inquiétude des commerçants relayée par une partie des députés de La République En Marche? En leur faisant peut-être entrevoir le bout du tunnel. Les commerces non essentiels pourraient rouvrir en décembre avec pourquoi pas une jauge réduite, ce qui leur permettrait de renflouer leurs caisses à l'occasion des achats de Noël. Déterminer un objectif sans pour autant brouiller le message martelé par le gouvernement. La deuxième vague est là, elle est violente. La progression de l'épidémie est certes plus lente, mais il y a toujours progression. L'exécutif devrait donc privilégier la fermeté avec un renforcement des contrôles tout en fixant un cap.
329 malades du Covid-19 sont morts hier à l'hôpital, portant le bilan de l'épidémie à plus de 42 500 morts en France. Le Royaume-Uni franchit, lui, le seuil des 50 000 morts, l'Espagne celui des 40 000 décès. Les États-Unis redoutent aujourd'hui un scénario à l'européenne, alors que la moyenne des contaminations dépasse les 100 000 nouveaux cas recensés chaque jour. Lui s'insurge contre les coupes budgétaires qui continuent à l'hôpital, mais aussi contre le manque d'argent pour la recherche et le climat. L'eurodéputé socialiste Pierre Larrouturou a entamé sa troisième semaine de grève de la faim hier pour obtenir un renforcement du budget de l'UE via une taxe sur les transactions financières. L'accord trouvé mardi entre le Parlement européen et les 27, augmenté de 16 milliards d'euros pour les 7 prochaines années, lui semble insuffisant. Une taxe de 0,1% sur la spéculation rapporterait 50 à 60 milliards d'euros par an, selon Pierre Larrouturou. Son parti Nouvelle Donne s'inspire du New Deal de Roosevelt, qui avait notamment taxé les grandes fortunes pour relancer l'économie aux États-Unis et créer des emplois.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Pour Nicolas Sarkozy, la vérité éclate enfin dans un message posté hier soir sur les réseaux sociaux. L'ancien président demande sa démise en examen dans l'enquête sur un éventuel financement libyen de la campagne présidentielle de 2007.
Car Ziad Taqiyedine retire ses accusations. Lui qui avait déclaré jouer les intermédiaires avec le régime de Kadhafi était l'un des principaux témoins à charge contre l'ancien président. Dans une courte déclaration à BFM TV et Paris Match hier soir, Ziad Taqiyedine, qui a fui au Liban alors qu'il a été condamné en France dans le volet financier de l'affaire Karachi, affirme finalement qu'il n'y a jamais eu de transfert d'argent entre les comptes de Kadhafi et ceux de la campagne du candidat Sarkozy, comme la justice française tente de le démontrer depuis 7 ans maintenant.
Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit haut et fort. Or, ce juge Tourneur a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis ou j'ai toujours dit. Il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy. Jamais.
Après ces propos de Ziad Taqiyedine, Nicolas Sarkozy a annoncé hier soir son intention d'engager une procédure pour dénonciation calomnieuse. Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, participait aux cérémonies hier du 11 novembre. Aux côtés d'Emmanuel Macron, le chef de l'État a présidé la cérémonie d'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix et avec lui tous ceux de 14 pour reprendre le titre éponyme de son livre le plus connu. Emmanuel Macron a insisté sur la force de l'héritage des poilus pour la France d'aujourd'hui, Pierre Neveu.
Témoigner pour eux sur la façade du Panthéon des images projetées en noir et blanc des poilus, ces combattants de la Grande Guerre, anonymes, le cercueil de l'académicien Maurice Genevoix porté par la garde républicaine entre dans la nef pendant que résonnent ces mots.
Cette détresse de la mort qui reste vacillante au fond de vos prunelles comme une flamme sous une eau sombre. Quel sens ? Tout cela n'a pas de sens.
Emmanuel Macron célèbre alors le courage français et celui qui a offert l'immortalité des mots, le sous-lieutenant Maurice Genevoix.
À ses camarades, Maurice Genevoix veut redonner des noms, des visages, des accents, offrir à ses héros ordinaires et à leur bravoure un tombeau de mémoire dans la langue française. Les voici, qui arrivent par millions pour entrer sous ce dôme. Hier, frères d'armes, aujourd'hui, compagnons d'éternité, ils s'avancent devant le temple. Des héros de notre patrie.
Des héros ordinaires, des hommes unis par la fraternité, Maurice Genevoix repose à présent dans cette cathédrale laïque, dans le caveau 13, en face des tombeaux de Simone Veil, André Malraux et Jean Moulin.
Reportage signé Pierre Neveu. 7h09 sur France Culture. Les Nations Unies exhortent les autorités du Mozambique à enquêter sur des massacres de villageois commis dans le nord du pays. Au moins 50 personnes sont mortes dans des attentats perpétrés par des combattants qui ont prêté allégeance au groupe État islamique et qui utilisent les mêmes méthodes barbares, Valérie Crova.
Décapitation d'hommes et d'adolescents, enlèvement de femmes et d'enfants. Les islamistes armés que les populations locales appellent Al-Shabaab, les jeunes en arabe, sèment la terreur dans la province de Cabo Delgado, une région à majorité musulmane, frontalière de la Tanzanie. La semaine dernière, les corps mutilés d'une vingtaine de personnes ont été retrouvés dans une forêt après que des hommes armés ont attaqué, pillé et brûlé des villages. En avril, c'est une cinquantaine de jeunes gens qui ont été décapités parce qu'ils refusaient de rejoindre leur rang. Le groupe djihadiste responsable de ces attaques opère depuis 3 ans dans cette région du nord du Mozambique qui se trouve être une zone stratégique riche en réserves de gaz naturel liquéfié. Les autorités du Mozambique sont impuissantes à endiguer cette insurrection djihadiste qui gagne chaque jour du terrain. Les violences auraient déjà fait 2000 morts et provoqué le déplacement de plus de 400 000 personnes.
En Angola, la police a tiré à balles réelles contre des jeunes qui protestaient contre la pauvreté et la corruption des politiques hier dans la capitale Luanda. En Pologne, une marche sous haute tension hier alors que des milliers de personnes célébraient l'indépendance du pays. Des affrontements ont éclaté entre nationalistes et policiers. L'extrême droite polonaise avait choisi de défiler sous la bannière « Notre civilisation, nos principes » alors que le pays est secoué par une vague de manifestations en faveur du droit à l'avortement. Reportage à Varsovie de la correspondante d'RFI de France Culture, Sarah Bakaloglou.
Dans un nuage de fumée rouge, des milliers de personnes en voiture, à moto ou à pied sont rassemblées. Debout dans une décapotable, le message de Mikolaï est clair. Sur sa bannière est écrit « Nous défendrons notre civilisation contre la barbarie ».
Ces derniers temps, nous avons eu beaucoup de manifestations pro-LGBT et des marches pro-avortement au cours desquelles il y a eu des attaques contre les églises. Je ne pense pas que le gouvernement défende nos valeurs nationales.
Au micro, les organisateurs d'extrême droite appellent les Polonais à gagner la guerre menée par la gauche contre les valeurs traditionnelles. Mais chez certains participants, les avis sont plus pacifiques, comme pour cette femme. La Polonaise, proche de l'extrême droite, est venue sans masque.
Les 3/4 d'entre nous viennent juste pour fêter cette journée de l'indépendance. Et moi, je suis venue ici pour montrer aussi ma colère contre les restrictions liées au Covid-19. Personne n'a le droit de nous dire de rester chez nous.
Une marche dans un climat tendu, la police a annoncé que plusieurs de ses membres avaient été blessés dans des affrontements avec des hooligans, tandis qu'un appartement a pris feu à cause de fusées éclairantes lancées par des participants visant un drapeau LGBT.
En Hongrie, la mère est une femme, le père est un homme. Ces mots seront bientôt inscrits dans la Constitution à la demande du nationaliste Viktor Orban. À terme, son gouvernement veut interdire l'adoption d'enfants par des homosexuels, qu'ils soient en couple ou célibataires. Et il sera impossible à une personne qui a changé de sexe de faire modifier ses papiers d'état civil pour qu'il reflète sa nouvelle identité. Un message clair envoyé à Bruxelles et aux dirigeants européens. L'Union européenne ne dictera pas sa loi et l'état de droit en Hongrie. Joe Biden presse le pas dans la transition aux États-Unis. Il a choisi cette nuit un démocrate chevronné pour être son chef de cabinet à la Maison-Blanche dès janvier prochain. Donald Trump, lui, ne concède toujours pas la défaite. On y revient dans le journal de 7h30. Le temps de ce jeudi 12 novembre, assez variable, marqué par des averses du nord-est à la Nouvelle-Aquitaine, de belles éclaircies dans le reste du pays. Au meilleur de la journée, il fera entre 13 et 22 degrés du nord au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques instants, on va parler de la taille. C'est important, la taille des individus. Comment expliquer les différences entre pays, je poserai la question à Barbara Eudes, elle est chargée de recherche à l'INSERM.